voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Philippe Descola. Je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai fait de ma curiosité pour le monde un métier. Je suis devenu un badaud professionnel, si je puis dire.
Troisième épisode, la nature, ça n'existe pas. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir.
Nous allons, pour cette troisième émission, plonger au cœur du réacteur d'Escolia, j'ai envie de dire. C'est-à-dire étudier ce que vous avez tiré des trois années chez les Achuars en Amazonie dont vous nous avez parlé hier, ce que vous avez tiré comme de cette expérience et que vous avez théorisé dans un livre qui a fait date, un livre paru en 2005 avec pour titre « Par-delà, nature et culture ». Je vais pas commencer par ce livre-là. En fait, je vais commencer par le précédent, Les Lances du Crépuscule, dont on a parlé, qui est le récit, d'ailleurs le récit haletant, puisque vous l'avez construit comme un polar, de ces trois ans passés chez les Achuars. C'est une sorte de journal de vos années. Et vous dites que la première leçon et la plus importante, c'est, je vous cite, que la nature n'existe pas partout et toujours. Et vous précisez quand même que cette séparation radicale très anciennement établie par l'Occident entre le monde de la nature et celui des hommes n'a pas grande signification pour d'autres peuples qui confèrent aux plantes et aux animaux les attributs de la vie sociale, les considèrent comme des sujets plutôt que comme des objets et ne sauraient donc les expulser dans une sphère autonome livrée aux lois mathématiques et à l'asservissement progressif par la science et la technique. Cette phrase correspond à un poème que vous avez mis en exergue de Par-delà, nature et culture, qui est un poème de Fernando Pessoa, mais qui revient au même. La nature, ça n'existe pas. Et là, je mets un point d'interrogation.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Pessoa n'a pas d'expérience ethnographique. Il a écrit ce poème sans bénéficier du contraste que moi, j'avais pu expérimenté sur le terrain. Il dit simplement j'ai vu qu'il n'y a pas de nature, je cite de mémoire, il y a des herbes, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des fleuves, mais il n'y a pas un tout auquel tout cela appartient. C'est ça qui compte au fond, il n'y a pas un tout auquel tout cela appartient, et cette totalisation des non-humains, c'est l'opération que les modernes ont menée. C'est pour ça qu'ils sont modernes, c'est parce qu'ils ont inventé cette idée de nature, qui a une longue histoire, bien sûr. Elle commence avec la phusis des Grecs, c'est-à-dire l'idée que certains, notamment des plantes, ont des propriétés qui leur sont propres. Elles ont une nature propre qui font qu'elles sont telles qu'elles sont. Et cette idée de phusis, ça a été traduit en latin par natura, et avec comme principe de développement d'une chose, natura ça vient de nascor, donc c'est la naissance, et progressivement cette idée a évolué au fil du temps, de sorte que au XVIIe siècle, elle est devenue l'ensemble des choses extérieures aux humains, sur lesquelles les humains pouvaient exercer un contrôle, auquel ils s'intéressaient comme savants pour en déterminer les lois. Et cette extériorité et cette position en surplomb, en somme, des humains vis-à-vis de la nature est quelque chose qui est très original dans l'histoire de l'humanité, qui n'est apparu nulle part ailleurs, en tout cas sous cette forme aussi éclatante, et qui donne toute sa spécificité au monde moderne, au monde européen d'abord, et ensuite aux civilisations qui ont adopté ce point de vue avec le développement de la globalisation, l'échange des idées, le colonialisme, etc.
Et ça, c'est ce qui vous est apparu comme une évidence au fil de votre expérience chez les Achuars, en Amazonie, puisque vous vous êtes rendu compte, et vous en parliez hier, par exemple, avec les rêves, ou le rapport aux animaux. Pour eux, les plantes, les animaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les non-humains, ne sont pas juste des morceaux de nature, mais des partenaires sociaux. Est-ce que vous pouvez développer
oui.
cette idée ?
Alors, ça se note aussi dans une technique rituelle qui consiste à chanter des invocations qu'on appelle des anent. Anent vient de enint, le cœur, et ce sont donc des discours de l'âme, c'est des discours du cœur qui sont adressés au cœur des plantes et des animaux, qui sont donc vus comme dotés d'une intériorité, d'une subjectivité, d'une capacité à communiquer, et qui sont donc réceptives, les plantes et les animaux, aux messages qu'on leur adresse. Il y a un terme qu'on peut traduire par « personne » en français, et qui est le terme « Eins », qui désigne tous les êtres qui sont dotés de cette capacité intérieure avec lesquels on peut communiquer, et qui donc va au-delà des humains, puisqu'elle inclut aussi la plupart, pas tous, mais la plupart des non-humains. Et donc, de ce fait, la nature comme une totalité extérieure telle que nous la concevons, nous, est une abstraction sans sens pour les Atchouars.
Les Atchouars sont proches de la nature, c'est presque un contresens.
C'est un contresens, parce que pour être proche de la nature, encore faudrait-il que la nature existe pour eux. Donc, c'est une façon pour nous de traduire des liens, encore une fois, de partenariat ou d'empathie dans certains cas, voire de compétition. Il ne faut pas non plus sacraliser la nature ou les non-humains dans des sociétés comme les Atchouars, puisque au fond, la plupart des plantes et des animaux avec qui on dialogue de cette façon par des anentes qui sont chantés mentalement ou sotto-voce. C'est la raison pour laquelle ça nous a pris un certain temps de les découvrir, évidemment, parce que c'était pas évident. La plupart de ces plantes et ces animaux, on les consomme aussi. Donc, ce sont des partenaires que l'on va manger et que l'on va dominer, que l'on va tuer, mais dans un rapport de, j'allais dire, de respect mutuel, en tout cas, comme des alter ego.
Mais ça veut dire quoi, par exemple, quand un chasseur Atchouar tue un animal en pensant qu'il est son parent, ça change quoi?
Il
le mange.
Il le fait à la manière de ce qu'il ferait avec un parent par alliance. Il faut distinguer entre les parents consanguins et les parents par alliance, qui est une distinction qui est très importante dans cette région du monde. Les parents par alliance, ce sont les beaux-frères, les beaux-pères et tous les personnes par lesquelles, avec lesquelles on peut se marier, et leurs parents. Et ce sont des gens qui sont conçus comme étant à la fois des alliés potentiels et en même temps des ennemis. Donc c'est une situation très compliquée, et le gibier occupe bien cette situation. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va tuer un animal et qu'on va le manger, on va tuer aussi un ennemi conçu comme un beau-frère générique, si vous voulez. C'est pas nécessairement un parent de son épouse, mais conçu comme un allié, instable, et avec qui on peut soit construire des alliances, soit se battre.
Soit avoir une maille à partie. Mais est-ce que ça veut dire qu'une vie non humaine compte autant qu'une vie humaine?
C'est une question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre, en fait. Il faudrait d'abord voir quelle est la valeur d'une vie humaine chez les Atchouars, dans une société dans laquelle il n'y a pas d'au-delà. C'est-à-dire dans lequel on n'est pas récompensé ou puni pour ses actions dans un monde
après la mort.
Et par conséquent, ça pose la question d'une forme d'individualisme qui est très différente de la nôtre. Les Atchouars estiment des personnes par leur capacité à remplir de façon exemplaire des qualités que l'on attend d'eux. Pour un homme, être un grand guerrier, un grand chasseur, savoir bien parler, être capable de convaincre, être plein d'énergie, d'avoir eu des expériences initiatiques, d'avoir rencontré des esprits et des choses comme ça. Pour une femme aussi, d'avoir eu des expériences initiatiques, d'être une cultivatrice hors pair, d'entretenir des relations d'intimité avec ses plantes, de faire de beaucoup d'enfants, de bien cultiver le manioc en abondance, de faire de la bière de manioc et des choses comme ça. La vie des gens est, si vous voulez, estimée en fonction de cette capacité à mener à bien un projet de vie illustré par des qualités spécifiques. Donc il y a quelque chose de très particulier dans la valeur d'une vie. Indépendamment de l'affection qu'on peut porter à quelqu'un, il y a cette forme d'accomplissement qui permet de juger de la valeur d'une vie qu'on ne trouve pas chez les plantes ou chez les animaux. Parce que leur accomplissement ne passe pas par ça. Donc on peut difficilement les mettre sur un même plan. Donc quand on dit que on traite les non-humains comme des alter-ego, ça veut dire qu'on ne les traite pas comme des objets. Mais on les traite comme des êtres qui ont une subjectivité, qui ont une capacité, au fond, à avoir une existence autonome.
Qui sont dotés d'une intériorité.
Qui sont dotés d'une intériorité avec qui on peut communiquer et qui sont, de ce point de vue, au fond, ceux qui n'ont pas d'intériorité, ce sont ceux qui existent en tant que collectivité. Par exemple, l'herbe n'a pas d'intériorité parce qu'il y a beaucoup de brins d'herbe. Alors, il n'y a pas énormément d'herbe en Amazonie, mais il y a des endroits où il y a de l'herbe quand même, il y a des petites graminées. Les poissons qui vivent en banc, par exemple, n'ont pas d'intériorité à la différence des gros poissons prédateurs. Et donc, la valeur, au fond, des êtres tient à cette forme d'individuation qui se manifeste dans certaines circonstances, mais qui suppose de la part des humains une forme d'accomplissement que les plantes et les animaux ne peuvent pas atteindre, je crois.
C'est à partir de là que vous avez déterminé, Philippe Descola, quatre grands systèmes que vous appelez les ontologies, c'est-à-dire peut-être en des conceptions du monde, à partir de la façon dont les Atchouars habitent leur monde, on va le dire comme ça, ou composent leur monde. Et pour vous, leur monde est un monde animiste. Alors nous avons quatre grands systèmes, l'animisme, le naturalisme, qui est plutôt le nôtre, disons, du côté occidental, le totémisme et l'analogisme. Vous les définissez dans votre ouvrage, par de la nature et culture. Peut-être faut-il revenir sur ce classement. Sur quoi déjà reposent ces quatre grands types de représentations du monde?
Le premier contraste, il est entre ce que j'ai pu observer chez les Atchouars et ce que j'amenais avec moi dans mon outillage intellectuel et dans ma formation de philosophe. Ce que j'ai pu observer chez les Atchouars, c'est précisément le fait que la plupart des non-humains avaient une intériorité, qu'on pouvait communiquer avec eux, qu'on les traitait comme des sujets et non pas comme des objets, et que, par ailleurs, ils avaient pour caractéristique d'avoir des dispositions physiques par espèce ou par forme de vie qui les rendaient tous différents les uns des autres parce que ça leur permettait d'habiter le monde de façon différente. Un poisson n'habite pas le monde de la même façon qu'un oiseau, qu'un insecte, qu'un humain, etc. Ou qu'un atchouar, ou qu'un membre d'une tribu voisine, parce que ces membres de tribus voisines parlent des langues différentes, ont des maisons différentes, ont des alimentations différentes, des parures différentes, etc. Et cette différenciation faisait que le contraste élémentaire entre humains et non-humains chez les Atchouars, et comme je l'ai découvert ensuite dans d'autres régions du monde qui suivaient ces mêmes principes, c'était une continuité des intériorités, à savoir que il y a des intériorités de type humain répandues partout parmi les non-humains, et en revanche une discontinuité des dimensions physiques, puisque les dimensions physiques faisaient que chaque espèce, au fond, chaque forme de vie, était, du fait de ses dispositions biologiques, branchée à des mondes différents, les mondes étant conçus comme des prolongements, en fond, de leurs organes et de leurs dispositions comportementales et biologiques.
Chez les naturalistes, c'est très différent.
Et chez les naturalistes, c'est exactement l'inverse. À savoir que nous, depuis le XVIIe siècle, depuis la révolution mécaniste, en particulier depuis Descartes, on considère au contraire qu'il y a une exceptionnalité des humains du point de vue des facultés morales et cognitives qui se distingue de tous les autres êtres et notamment des animaux, à la différence de ce qui se passait avant chez Aristote, par exemple, où il y a des degrés dans la perfection de l'âme selon une gradation en quatre étapes, si mes souvenirs sont bons, et les animaux, d'un certain point de vue, partagent beaucoup de choses avec les humains parce qu'ils disons, des qualités morales et cognitives qui les rapprochent d'eux. Dans la philosophie et dans les grands textes épistémologiques et philosophiques du XVIIe siècle, cette distinction disparaît. Et donc les non-humains deviennent des objets parce qu'ils n'ont pas cette intériorité, cette capacité réflexive, hein, le cogito cartésien par exemple, qui leur permet de se prendre eux-mêmes comme objet de pensée, de réflexion.
C'est ce qui fait que la nature est un objet extérieur à l'homme, soit exploité, soit protégé.
Soit protégé, soit effectivement objet de dilection, de esthétique en particulier. Mais l'autre aspect qui est déjà présent chez Descartes, par exemple, dans la théorie des animaux-machines, c'est que les mécanismes physiques qui animent les êtres sont de même nature partout. Et par conséquent, il y a une unité, au fond, des composantes du monde du point de vue de leurs caractéristiques physiques. Et du point de vue de la chimie, du point de vue de la physique, et au XIXe siècle, du point de vue de la biologie, du fait des mécanismes de l'évolution. Et donc c'est exactement l'inverse, il y a continuité et discontinuité entre humains et non-humains, mais ces continuités et ces discontinuités ne passent pas par les mêmes frontières. Et ça, c'est un premier contraste, évidemment, entre ce que j'ai appelé l'animisme, en restaurant un concept qui était tombé un peu en discrédit, dont j'ai découvert qu'il était actif dans un archipel assez vaste, qui va de l'Amazonie et plus au sud de la région du Chaco, dans le nord de l'Amérique du Nord, autochtone bien sûr, en Sibérie, dans des régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie, etc., où domine non pas la même conception du monde, c'est une expression que vous avez employée. Si j'emploie le terme d'ontologie, c'est pas un synonyme de conception.
Je sais,
du
c'est
monde.
Pour mais je l'ai utilisé parce que pour nous néophytes qui vous écoutons, ça peut paraître parfois plus clair de dire voilà, c'est la conception du monde qu'on a. Mais
non, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire monde, c'est-à-dire c'est une façon de repérer, de détecter dans ce qui nous entoure des éléments qui sont pertinents et d'autres qui demeurent invisibles d'une certaine façon. Et avec ces éléments, c'est pour ça que je parle de composition du monde, on va composer des mondes différents. Le monde en tant que tel, c'est une abstraction, on ne sait pas ce qu'il est et on ne saura probablement jamais, puisque notre espèce aura disparu avant de l'avoir complètement investigué, on ne saura jamais la totalité des êtres et des phénomènes, des processus qui composent ce monde. Donc on suppose qu'il y a un monde général, mais ce monde, il n'est pas, du fait des filtres que l'on acquiert dans sa socialisation, ce monde, il n'est que partiellement appréhendé par les uns et par les autres. Et donc chacune de ces appréhensions partielles constitue une forme de mondiation, c'est-à-dire de faire monde, que j'appelle une ontologie.
Absolument. Mais malgré tout, alors là c'est peut-être un travers des anthropologues, est-ce que le risque, Philippe Descola, n'est pas de figer les populations dans cette mondiation, cette façon de faire monde, en les essentialisant? C'est-à-dire, est-ce que, malgré tout, vous tenez compte de l'histoire, du mouvement, de la nouveauté, du fait que les gens évoluent? Peut-être même nous, qui sommes naturalistes depuis le XVIIe siècle, nous étions autre chose avant, et nous allons être autre chose après. Nous allons peut-être devenir animistes, c'est peut-être votre souhait d'ailleurs, on verra ça après. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça fige pas?
N'y a aucune idée d'une assignation. D'abord, ce sont des modèles que je propose. Ce ne sont pas des descriptions de réalité empirique. Ce sont des modèles qui permettent de comprendre la réalité empirique et qui permettent de comprendre les contrastes qui structurent la réalité empirique. Et vous disiez tout à l'heure, nous avons été autre chose. Bien sûr que nous avons été autre chose. Nous avons été une autre formule que j'ai appelée l'analogisme, et qui est fondée sur l'idée que le monde est un ensemble d'éléments disparates qui, pour devenir vivable et conceptualisable, nécessite que l'on tisse entre ces éléments disparates des liens qui sont des liens de correspondance. Et comme ces liens de correspondance sont généralement élaborés sur la base du raisonnement analogique, j'ai appelé ça l'analogisme. Ça m'a frappé parce que je relisais un chapitre du livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, qui s'appelle La prose du monde, qui est consacré aux procédures qu'emploie la pensée de la Renaissance pour établir des relations entre les choses. Et je lisais en même temps le livre de Granet sur la pensée chinoise, et je me suis aperçu que beaucoup des procédures étaient analogues, et que donc, en dépit de la distance intellectuelle et conceptuelle philosophique que l'on peut établir entre la Chine classique, disons, et la Renaissance, il y avait des points communs. Et ces points communs étaient précisément l'obsession de la recherche de l'analogie entre des éléments disparates, de façon à construire des cheminements interprétatifs, et notamment pour une raison très importante, qui est celui de la divination ou de la prévision du futur, ou de la thérapeutique. Et dans ce monde que j'appelle analogiste, les correspondances jouent un rôle central pour se rassurer d'une certaine façon au milieu d'un monde disparate. Et ces correspondances, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, qui est quelque chose qu'on peut imaginer universel, c'est-à-dire l'idée que le corps, comme une sorte de monde en miniature, certaines de ses parties sont en résonance avec des éléments du cosmos, avec des planètes, avec des étoiles, avec des signes du zodiaque, avec des éléments au sens où on l'entendait jadis, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, etc. Une pensée qu'on trouve donc très caractéristiquement dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance en Europe, mais qu'on trouve ailleurs dans le monde, en Extrême-Orient, qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, qu'on trouve dans les hautes terres des Andes et du Mexique, etc. Donc un système qui est très, très caractéristique. Et nous avons quitté ce système qui survit d'une certaine façon dans l'habitude de consulter un horoscope, par exemple, ou bien dans des systèmes thérapeutiques alternatifs qui sont fondés sur ce qu'on appelait jadis la théorie des signatures, c'est-à-dire le fait qu'on va soigner un organe en utilisant, par exemple, une plante ou une racine dont la forme évoque cet organe. C'est vraiment un raisonnement analogiste. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de notre passé. Et nous avons basculé de ce monde analogiste dans le monde naturaliste il y a quelques siècles.
Mais on peut pas être plusieurs choses à la fois?
Alors, on peut être plusieurs choses à la fois, mais pour définir d'abord ce que l'on est, il est utile d'avoir des composantes. C'est-à-dire, l'hybridation, c'est le mélange des choses, mais mélange de quoi? Et donc, c'est pour cela qu'il m'a semblé utile
de mettre des mots sur des choses.
De mettre des mots sur des modèles, justement, pour comprendre ces phénomènes d'hybridation. Et d'une certaine façon, il y a bien sûr qu'il y a des systèmes qui sont purs, si on peut dire, c'est l'Amazonie est vraiment amazoniste, la Sibérie est vraiment animiste. Et la Sibérie aussi, mais en Europe, et alors c'est particulièrement très net dans les images, dont on parlera peut-être plus tard.
Demain.
Mais il y a certaines images qui sont au début du surgissement du naturalisme en Europe, qui est plus ancien que les textes qui en parlent, puisqu'on on les trouve dans les images dès le XVe siècle. Il y a des images, je pense au très rigueur du duc de Berry, par exemple, dans lequel il y a des images qui sont absolument typiquement naturalistes, et d'autres qui sont des images, notamment une image de l'homme zodiacal, qui figure les correspondances entre le corps et les signes du zodiaque qui sont complètement analogistes. Donc il y a des superpositions à certaines époques, et il y a même des formes d'hybridation qui sont très très intéressantes à étudier. Mais encore une fois, pour étudier l'hybridation, il faut savoir ce qui s'hybride.
Encore faut-il savoir ce de quoi il s'agit. Je vous entends, Philippe Descola, mais comme vous parlez de modèle, est-ce que vous diriez qu'il y a un modèle qui est plus porteur d'une sagesse, disons, profonde pour le temps présent et pour le temps à venir qu'un autre? On a bien compris que le naturalisme, vous qui avez passé du temps chez les Achuars notamment, et qui avez étudié leur rapport au monde, disons, on a bien compris que le naturalisme n'avait pas vraiment vos faveurs. Finalement, le naturalisme est un rapport destructeur au vivant, puis on le voit tous les jours, on voit les impasses de ce naturalisme. Mais alors, lequel des modèles aurait votre faveur?
Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait. Comment dire ? Il n'y a pas de transposition historique possible, malheureusement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par le naturalisme, il est très difficile, je crois, de se...
De revenir en arrière.
C'est pas une question d'arrière ou
donc,
d'avant.
Si avant, hein. On était comme si, maintenant, on est comme
oui,
ça.
Oui, on est pas, si. On était analogiste.
C'est pour ça que je dis ça.
On
voilà.
Était analogiste et il n'est pas impossible que les transformations actuelles du capitalisme et les effets destructeurs du capitalisme industriel qui a été rendu possible par le naturalisme aboutissent à quelque chose de nouveau, à une hybridation dans laquelle...
Ça fait inventer un nouveau modèle, en fait.
C'est dans lequel l'analogisme reviendrait comme un dispositif, puisque nous sommes familiers de l'analogisme, reviendrait comme un dispositif beaucoup plus pertinent, disons, pour comprendre la situation présente. Mais on ne peut pas dire on va embrasser l'animisme ou le totémisme comme une solution à nos problèmes, parce que, encore une fois, la situation des populations de l'archipel animiste...
ne correspond pas à toutes les populations.
Ne correspond pas à la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle.
Philippe Descola, vous restez comme, avec ce livre, hein, Par-delà nature et culture, vous restez comme l'homme qui a fait sauter le dualisme entre nature et culture, précisément en montrant notamment qu'il n'y avait pas de nature, en tous les cas que le concept de nature n'était pas partagé universellement. Donc c'est aussi une remise en question de l'universalité du regard occidental. Comment vous expliquez le formidable succès de ce livre ?
Je ne sais pas, c'est pas à moi de... Je suis à personne la moins bien placée probablement pour répondre. Vous savez ce que disait Valéry, une fois qu'un texte est publié, l'auteur n'a plus aucune prise sur ce texte, puisque ce sont les lecteurs qui s'en emparent, et qui quelquefois font des propositions de ce texte d'un usage plus intéressant que l'auteur lui-même. Donc je suis tout à fait dans la situation que décrit Valéry. J'observe avec curiosité ce qu'on en fait, mais il ne m'appartient vraiment pas de porter un jugement sur la qualité des interprétations qu'on en fait, puisque au contraire, je regarde ça avec beaucoup de curiosité.
On essaiera dans les deux prochaines émissions, demain et après-demain, d'examiner le succès et effectivement les conséquences, hein, en termes non seulement de recherche, mais en termes aussi politiques. De ce livre Par-delà nature et culture. Merci et bonne soirée, Philippe Descola.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Michael Simon, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.